Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour Père Aymar de Longotier.
Bonjour Nathalie.
Alors c'est une troisième semaine dans ce rendez-vous des clés pour grandir. On salue tous les parents et grands-parents qui écoutent ce rendez-vous et surtout dans ce temps de l'Avent, un livre donc à offrir peut-être au pied du sapin. Hein. Père Aymar, c'est votre premier livre. C'est Le bonheur n'est pas dans le canapé. 40 jours pour devenir acteur de sa vie aux éditions Première Partie. Donc plus, je dirais, pour devenir un saint aussi, peut-être plus de 40 jours, mais peut-être le parcours de toute une vie pour, je dirais, choisir un peu ce chemin de sainteté. Comment avez-vous finalement pensé, préparé, travaillé, je dirais, l'écriture de ce premier livre qui présente 40 étapes avec 40 défis. Donc, je me suis arrêtée sur le numéro 27, figurez-vous, Père Aymar. C'est celui que vous avez intitulé « Rendre grâce ». « Rendre grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus ». Ça, c'est dans Timothée, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Vous écrivez la louange de Père avec l'action de grâce. Vous écrivez encore la pratique de l'action de grâce nous aide à passer de spectateur à acteur, de victime à responsable. Voilà, c'est parmi, je dirais, de nombreux défis. Il y a ce défi aussi d'entrer. Je reviens aussi dans notre temps, dans notre époque obscure, un peu ténébreuse, qui perd peut-être l'espérance, retrouver l'espérance, comment, je dirais, formuler, redynamiser, je dirais, les cœurs des parents, les cœurs des grands-parents qui parfois désespèrent devant, je dirais, des ados, des jeunes adultes, je dirais, qui s'égarent un peu du chemin, qui s'égarent un peu de la route. Alors vous, bon père Aymar de Longotier, jeune prêtre, comment, je dirais, redynamiser, redonner de l'espérance à tous ces parents, grands-parents?
L'espérance est une belle vertu et elle est typiquement chrétienne. Cette espérance de croire que tout est déjà gagné. Je pense souvent au Christ sur la croix qui a œuvré pendant 3 ans, qui a converti le cœur de 12 hommes et qui, à sa mort, tout est anéanti. Et pourtant, quelque chose de l'espérance germe de la croix pour nous offrir la résurrection et ensuite la christianisation de notre monde. Et donc l'espérance, c'est ça, c'est de ne jamais perdre espoir que quelque chose de bon arrive. Et quelque chose de bon, nous l'espérons souvent de manière très lointaine, quand je serai plus grand, quand j'aurai plus de responsabilités, quand je serai enfin à la retraite, quand ceci, quand cela, alors qu'en fait l'espérance se trouve en nous. Et comment retrouver l'espérance? Eh bien, j'ai trouvé ce petit chapitre intéressant à écrire, qui est de rendre grâce, et de savoir louer le Seigneur pour ce qui se passe de bon et de beau dans notre vie. Et j'incite souvent les enfants avec qui j'ai quelques responsabilités, et les jeunes, de louer le Seigneur pour quelque chose de bon qui s'est passé dans leur journée. La journée la plus pourrie possible, il y a toujours quelque chose de bon et de juste. Et notre esprit s'arrête souvent sur ce qui n'a pas été, sur tout ce que nous avons fait de mal. Alors qu'en fait, savoir rendre grâce et pas être innocent ni naïf, c'est savoir reconnaître l'action du Seigneur dans notre vie, même dans les plus grandes ténèbres, et savoir trouver ces petits nénuphars sur lesquels la grenouille saute pour ensuite aller sur la berge.
Alors quelle a été pour vous, je dirais, dans l'action de grâce, l'espérance, le défi de cet ouvrage dans l'écriture,
déjà,
la manière de le penser?
En sortant de mon séminaire, je pensais ne jamais écrire un bouquin. Alors, je sais que tout le monde dit ça, mais vraiment...
Oui, tout le monde dit ça, j'ai reçu beaucoup d'auteurs.
Je sais que tout le monde dit ça. Mais vraiment, j'avais rendu un devoir de 30 pages à la fin de mon séminaire, qui était une épreuve abominable, un long accouchement, et jamais je pensais écrire un livre. Et donc, quand l'éditrice Clotilde Brossolet est venue vers moi, je lui ai d'abord dit non. Elle est revenue un an après, en disant, en fait, ça serait quand même bien que vous écriviez quelque chose. Et donc, elle a pensé la maquette des 40 défis qui m'ont beaucoup intéressé et qui étaient beaucoup plus à ma portée que d'écrire un long livre, une longue réflexion sur un même thème. Voilà, 40 défis, de manière un peu progressive, me correspondaient plus. Et donc, je les ai écrites en 6 mois avec l'aide de ma belle-sœur et d'une amie, Stéphanie et Perrine, qui ont été une relecture féminine, bienveillante et exigeante avec moi.
Pourquoi vous insistez sur une lecture féminine importante?
Oui, elles ont beaucoup féminisé mes exemples, par exemple. J'avais des exemples que masculins. Et puis, elles ont apporté une touche complémentaire à ce que je suis comme prêtre. Elles ont apporté une touche maternelle, d'épouse et de mère de famille, qui ont fait, je pense, qui font le succès de tous ces petits écrits.
Alors, vous avez des retours, je dirais, depuis la parution de ce livre, je dirais, auprès de ce public essentiellement collégien et lycéen.
Plutôt lycéens et étudiants, de fait, je vois la tranche d'âge. J'ai de très bons retours. Certains l'ont lu d'une traite, d'autres le lisent vraiment comme une étape importante dans leur vie, avec un défi par jour. Donc oui, des retours très positifs, et des parents aussi qui l'ont offert, je pense à un paroissien, qui l'a offert à tous ses petits-enfants de 15 à 20 ans, un chacun. Et voilà, je le vis aussi dans différentes dédicaces que je peux faire. Et quand je propose telle ou telle dédicace, séance de dédicace, il y a souvent du monde. Donc, de très bons retours. Très heureux, mais de toute façon, même s'il n'avait pas marché, j'étais très heureux de ce livre.
Ce livre, l'écriture, ça vous a fait grandir en tant que prêtre?
Sûrement.
Votre paternité aussi. Hein. On n'a pas parlé de cette paternité qui habite le cœur du prêtre, mais le prêtre est appelé à cette paternité.
Ça a sûrement fait grandir en moi ce désir de m'adresser vraiment à la jeunesse. Ça m'a aussi beaucoup vidé intellectuellement, et j'avais eu du mal à écrire mes homélies pendant ce temps-là. Donc ça prenait beaucoup de temps libre, perso, et donc de travail un peu intellectuel. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à retrouver des homélies et à les travailler comme j'avais l'habitude de les travailler. Mais en fait, je me suis rendu compte que là, il y avait 40 thèmes, voire même 80 thèmes d'homélie, si on divise en deux chaque thème. Et donc aujourd'hui, je n'ai aucun scrupule à piocher allègrement dans ce que j'ai déjà écrit pour le donner différemment.
Est-ce que vous avez un thème particulier, votre préféré peut-être?
Mon
parmi
préféré,
tous les... Oui, est-ce qu'on peut vous demander? Voilà.
Mon préféré, c'est le 19, tenir sa place dans le monde. J'incite avec un exemple personnel d'avoir assisté au concert de Big Flo et Oli au Stadium de Toulouse, où aucun artiste n'était venu depuis 20 ans. Mais voilà, j'avais le sentiment vraiment d'être à ma place et d'être là où il fallait que je sois. Et donc d'inciter les jeunes à se dire, c'est pas la peine d'imaginer un monde où on pourrait grandir, où nous aurions dû grandir. Nous sommes là où nous sommes. Et d'ailleurs, la citation de Saint-François de Sales est l'une de mes préférées. « Fleuris là où Dieu t'a planté. Maintenant, ici, et c'est pour toi. »
Donc être à sa juste place.
Exactement.
Ouais. Donc parmi tous les grands défis aussi, alors dans ce monde de troubles, de confusion, ce monde un peu éprouvé, malmené, et puis au fond cette jeunesse parfois qui subit, un autre défi, donc après le 27, le 28, comprendre pourquoi Dieu permet le mal. On imagine ô combien, Père Aymar, on parle d'espérance, de rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Comment, aider ces jeunes que vous côtoyez, que vous accompagnez, à traverser ces périodes, au fond, où le mal sévit dans le monde. Nos jeunes suivent l'actualité et nos jeunes sont informés rapidement.
Oui, mais nos jeunes passent assez rapidement, et en fait, ce qui est le plus important pour eux, ce reste quand même leur avenir proche des grandes décisions, je pense aux orientations professionnelles et donc, je parle quasiment jamais d'actualité avec les jeunes. Parce qu'en fait, on parle d'autre chose. Ils sont dans l'instant présent, dans quelque chose de plus profond, de personnel. En tout cas, c'est ce que j'arrive à faire développer chez eux. Et donc non, je suis plutôt... soit ils sont très superficiels, ils en ont besoin aussi d'avoir des références, d'avoir des traits d'humour, d'avoir des vidéos sur lesquelles on peut revenir et des petits tics de langage. Soit ils sont directement très personnels, et en tout cas j'essaie de les faire parler sur ce qu'ils vivent eux. De parler d'actualité avec les jeunes, en fait, ça m'intéresse assez peu.
Non, vous parlez jamais d'actualité.
Assez peu, et
d'accord,
je
ça
pense
vous
que
pas.
Ça les intéresse pas non plus. Ouais.
Donc on est dans l'instant présent.
un petit peu.
Il n'y a pas cette projection aussi de l'avenir.
Si, complètement, de leur avenir.
De leur avenir professionnel.
Mais je me rends compte qu'en fait, même de l'écologie, ils savent que de toute façon, ça sera un grand défi à venir, mais ce n'est pas quelque chose qui...
En fait, ils connaissent tous les défis.
Oui, ils les connaissent,
ouais. Mais ce n'est pas forcément la priorité.
Non, en tout cas, je ne m'arrête pas dessus parce que je préfère parler de ce qu'ils vivent, eux, de leurs rêves, de leurs soucis, de leurs problématiques.
Alors, ils ont encore des rêves, hein ?
Bien sûr, ils ont des rêves. Bien sûr, ils ont des rêves. Ils voient les choses grandes, mais il faut faire naître ce désir en eux de voir les choses en grand.
C'est un peu aussi le devoir d'un prêtre.
En eux. Et bien sûr, c'est le devoir d'un prêtre. Et c'est là notre exigence d'être en adéquation avec ce que l'on prêche le dimanche, avec ce qu'on leur dit, et d'être des témoins aussi pour eux, pour qu'ils le deviennent ensuite.
Donc, vous parlez là, vous soulevez, hein, je dirais, le problème, enfin, qui n'est pas un problème, mais de cohérence. Hein.
Exactement, la cohérence d'une vie. La cohérence d'une vie est d'être unifié autour d'une personne qui est le Christ. Et je leur prends souvent l'exemple qu'ils soient un partout, qu'ils soient à l'école, à la maison, en soirée, devant un match de rugby, qu'ils soient le même. Et qu'on ne dise pas « je t'aime pas quand tu es avec tes amis parce que tu es ceci, cela » ou « à la maison, je te reconnais plus ». Voilà, mais c'est une cohérence qui prend toute la vie.
Père Aymar de Langoutier, j'invite les parents et puis les grands-parents. Vous avez donné l'exemple aussi sur votre paroisse d'un grand-père qui a offert à ses petits-enfants ce livre. Eh bien, le temps de Noël, le temps de l'Avent, c'est peut-être la période. Si vous devez sélectionner quelques ouvrages pour vos adolescents, vos jeunes adultes, eh bien, je vous conseille aussi de parcourir, de lire, de commander, d'acheter. Le bonheur n'est pas dans le canapé. 40 jours pour devenir acteur de sa vie. Aux éditions Première Partie, et puis sans oublier aussi de devenir acteur de sa vie au fond tous les jours, à tout instant présent, et puis devenir maintenant et à jamais ce saint dont l'Église a besoin. L'Église a besoin de saints, Père Aymar de Langoutier.
Plus que jamais.
C'est un appel.
Exactement.
Merci.